Le renouvellement des générations agricoles est aujourd'hui un enjeu crucial pour l'avenir de notre agriculture et de nos territoires. Les enjeux forts de la transmission ne sont plus à démontrer. En tant que point accueil transmission, l'ADEAR du Lot réalise des actions de repérage, de sensibilisation et d'accueil des cédants. C'est dans ce cadre que le partenariat avec Antendoc s'est mis en place. À travers des émissions, les paysans et paysannes témoignent de leur parcours de transmission, comment transmettre dans un cadre familial ou hors cadre familial, quelles sont les démarches, les intérêts et les enjeux à renouveler les générations en agriculture et quelles solutions existent pour aider à tout cela. Dans cette première émission, je vous amène à Sabadell-la-Tronquière pour y rencontrer Marc Vermande, éleveur ovin depuis les années 80, cédant son exploitation, et Coralie Grolier, nouvellement installée en tant que paysanne et qui reprend l'exploitation avec son conjoint. Mathilde de l'ADR du Lot est également présente lors de cet échange et donne les clés d'une transmission réussie.
Vermande Marc, Sabadell-la-Tronquière, 62 ans. J'ai été agriculteur toute ma carrière. Je me suis installé en 1987 sur 27 hectares et des poussières en production ovine. Et je n'ai pas évolué de toute ma carrière. Voilà, je suis resté à les mêmes surfaces. J'avais un troupeau de brebis allaitantes lozériennes et je les ai conduites en trois agnelages en deux ans et je suis monté à presque 300 mères, voilà, au maximum de ma capacité de fonctionnement. Et je m'étais toujours dit que l'agriculture c'était un passage, c'était pas un métier à vie. Et que à 55 ans, 56 ans, j'essayerai de retransmettre soit aux enfants, soit à quelqu'un d'extérieur. Et ce qui s'est passé, à 57 ans, j'ai fait un premier essai de transmission avec un jeune couple de 21 et 22 ans, avec un petit gamin de 6 mois. Ces gens sont venus, je leur ai prêté un terrain, ils ont monté une yourte, ils voulaient faire du maraîchage en permaculture. Et bon, ils ont démarré leur yourte, ils n'avaient aucun apport de pécunier. Et au bout de 6 mois, ça a commencé à tomber en galère, ils avaient du mal à payer les annuités de la yourte. Et 6 mois plus tard, le concessionnaire de la yourte est revenu récupérer sa yourte et ils sont partis. Parce qu'ils ne payaient pas. Voilà. Parce qu'ils avaient acheté la yourte en leasing. Okay. Très mauvaise idée. Bon, voilà. Premier échec. Et après, bon, du bouche à oreille, avec l'ADR, tout ça, j'ai commencé à me rapprocher d'eux. Et un beau jour, Coralie se ramène chez moi. En 2019, et elle me propose d'étudier la situation et de voir si c'était possible de s'installer. Elle commence à me dire à mi-mot qu'elle habitait avec un black, tout ça. Bon, j'ai dit, pas de problème, je ne suis pas plus raciste que les autres. Ou moins, peut-être. J'ai dit, ok, on fait un essai, on va à l'ADR, on fait toutes les formations de transmission, succession, là. On s'est amusé pendant au moins 6 mois à aller vous rencontrer, à faire des sessions de formation. Et il en a débouché qu'ils étaient motivés. Et ils avaient bien envie de reprendre cette exploitation parce qu'elle était, c'était pas très grand, c'était accessible, peut-être plus accessible au point de vue financier que des très grosses structures. Et on en a conclu que, bon, on allait faire un CFI.
CFI,
contrat, formation, installation. Alors, on signe le CFI. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais cette maison et j'avais la maison de mes parents qui était en état plus ou moins délabré. Mais bon, qui pouvait, à la rigueur, accueillir un jeune couple, quoi. Et je leur ai prêté la maison. Et Isaïe m'a accompagné pendant la première année. Ça a été très sympa pour moi parce que j'avais beaucoup moins de travail. Et il a commencé à s'habituer à toutes les à ma façon de travailler, à ma façon de gérer. Au départ, il me disait, oui, je connais l'agriculture, j'ai fait plein de stages partout, je sais conduire le tracteur, je sais... voilà. Et petit à petit, je me suis aperçu qu'en fait, il savait peut-être conduire un tracteur, mais à sa façon, quoi, c'est-à-dire sur la route, et pas forcément au travail. Et petit à petit, je l'ai mis d'abord sur des endroits plats pour travailler le tracteur, puis après on est allé dans les pentes, petit à petit. Il s'est mis à faire le travail avec moi. Et un an de CFI s'est écoulé, et les dossiers, on a commencé à monter les dossiers de transmission et de financement. Et là, il y a eu un petit peu de... On a un peu pédalé dans la... Vous avez pédalé un peu dans la choucroute parce qu'il fallait trouver des financements pas énormes, mais il fallait trouver autour de 50 000 euros, je crois que c'était. Et ils ont décidé de louer le bâtiment, les terrains et de me racheter un tracteur et certains matériaux. Moi, je gardais un deuxième tracteur pour moi et ils ont monté un dossier de financement qui a fini par être accepté. Et le 1er janvier 2022, ils se lancent. Moi, je pose mon dossier de retraite parce que j'avais calculé que je pouvais partir en retraite à 60 ans, en carrière longue avec 168 trimestres de cotisation. Et c'était tout calé en fonction de mon départ et eux reprenaient direct derrière. Et voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je leur ai dit, vous avez besoin d'aide, vous savez où je suis. Alors de temps en temps, assez fréquemment, même presque quotidiennement, j'avais quelqu'un qui toquait à la porte, qui me disait, Marc, viens voir, il y a un problème, il y a une brebis, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Allez hop, je montais à la bergerie, je faisais un diagnostic. Et voilà, et je disais, bon, ça peut pas annuler, ça a une torsion, vétérinaire, ça, c'est foutu, c'est trop tard, ça mourra. Et petit à petit, maintenant, j'en ai moins de visites, enfin, j'en ai en ce moment-là pour me demander quand est-ce que je fauche, mais moi j'ai dit, regardez la météo, parce que c'est pas, je sais, j'ai pas la science infuse de la météo. Et voilà, la première année s'est écoulée, on a fait un petit bilan de fin d'année. Ils étaient assez satisfaits. Je ne peux pas dire guère plus, voilà, je ne sais pas. Bon.
Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans cette transmission? Le fait de se séparer de son outil de travail, de se séparer de son activité ou... de transmettre un savoir-faire, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous?
Honnêtement, il n'y a eu aucun point compliqué. Parce que psychologiquement, j'étais déjà préparé. J'avais deux filles qui ne voulaient pas entendre parler de l'agriculture. Ma femme, on est divorcés là depuis... Enfin, on est en train de se divorcer, mais bon, ça. Elle n'est pas du milieu agricole. J'ai toujours travaillé seul sur la ferme. J'ai géré seul sur la ferme, j'ai fait toutes mes déclarations, tout ça. Et j'étais préparé, et le petit point qui me gênait le plus, c'était de céder un troupeau et de le revoir 6 mois dans un état pitoyable. Voilà. La seule chose qui m'inquiétait, alors, j'ai vu que le troupeau était aussi nickel que quand j'y étais, à peu près, quoi, je suis content. Je suis content. Voilà, il n'y a pas de choses à dire. Et après, j'ai des activités annexes, je suis élu, j'ai des réunions, j'ai des grands figeacs, tout ça. ce soir j'ai une réunion, j'ai des abeilles, j'adore la pêche, j'aime bien la sylviculture, je l'entretiens. Mais voilà, j'ai carrément autant d'activités qu'avant. C'est pas les mêmes, voilà. Et je fais ce que j'ai envie de faire.
Je vais m'adresser maintenant à Coralie. Alors Coralie, comment vous est venue l'idée avec ton compagnon de vous installer et comment s'est effectuée ces recherches déjà ?
Eh bien, en fait, nous, avec une situation un peu compliquée professionnellement, on cherchait une reconversion et pouvoir mettre en œuvre un peu tout ce qu'on avait eu dans le passé comme expérience, sans laisser tomber les différentes compétences qu'on pouvait avoir. Et donc le souhait, c'était de travailler ensemble dans la nature et avec tout ce qu'on savait faire, on s'est dit que forcément, une ferme, ça nous conviendrait. Donc on s'est questionné un petit peu sur nos envies, nos besoins et puis nos capacités du coup. Et puis, en fait, je suis allée pousser les portes ouvertes du lycée agricole de la Capelle Marival. Et de là, en fait, au fur et à mesure, toutes les portes se sont ouvertes, les petits indices pour nous mettre sur la bonne piste, les bonnes rencontres avec des stages, avec la rencontre avec l'ADA, effectivement. Et de là, en fait, on s'est senti accueillis dans une grande famille. Et chaque rencontre nous confortait dans ce choix-là. Et alors, bon, moi, au départ, je voulais élever des chèvres et faire du fromage. Et c'était catégorique, je voulais surtout pas entendre parler des brebis. Et monsieur, lui, était plutôt orienté vers du maraîchage de cœur, comme ça aurait été plutôt du maraîchage. Mais bon, ensuite, après le diplôme agricole pour pouvoir s'installer, après les stages, etc., on a rencontré un premier fermier chez qui on a tenté l'expérience, avec qui ça n'a pas fonctionné, que ça correspondait pas forcément à nos attentes non plus. Ensuite, on a rencontré Marc par le bouche à oreille des connaissances. Et là, en fait, c'est effectivement pas la ferme qu'on cherchait, mais la personne, le cadre, la philosophie a fait que, en fait, ça a collé tout de suite. On s'est senti vraiment l'envie, la capacité d'essayer ici, quoi. Donc on a récupéré donc la ferme de Marc avec environ 150 brebis qu'on élève pour les agneaux du coup. Et en parallèle, moi j'ai quand même mes quelques biquettes qu'on essaye tant bien que mal de tenir, qui sont très très caractérielles, très chaveuses, enfin très chippies on va dire, voilà. Et on est en cours d'installation d'un petit atelier de fromagerie, du coup, pour pouvoir faire tout ça. Et donc, on voudrait allier les deux productions, brebis et chèvres. Et puis, ben, voilà, donc on a pu, avec les conseils et l'accompagnement de l'ADR, au fil des rencontres et puis des petites formations, comme disait Marc, la petite formation « Mûrir son projet » que j'ai suivie. Il y a une autre formation pour... Ça, c'était moi avec le projet, du coup, qui est très intéressant. En fait, il y a plein de petites thématiques qui peuvent être abordées au fur et à mesure. Et en fait, là-bas, j'ai trouvé un accueil bienveillant, tout dans l'écoute et dans l'envie d'aider. Et de vraiment, vraiment chaleureux, en fait. Et donc, on s'y sent tout de suite bien. Et quand j'avais des idées qui n'étaient peut-être pas forcément... judicieuse, je trouvais les bons conseils et savoir vers quelle porte frapper aussi pour trouver des financements. Donc, du coup, on a pu faire appel à une fondation qui nous a aidés qui s'est portée garante pour nos emprunts et qui nous a aussi octroyé un petit emprunt à, comment ça s'appelle, un prêt d'honneur à 0%. Donc tout ça mis bout à bout nous a aidé à reprendre la ferme de Marc, voilà. Donc là on a fêté notre premier anniversaire en début d'année et on est très fatigués, mais on est heureux en fait de pouvoir s'exprimer dans tout ça et avoir Marc au pied de la ferme aussi pour le conseil au quotidien, c'est super.
Est-ce que vous vous attendiez à ça, à vivre cette expérience-là comme vous venez de la vivre ?
Non, on pensait que ce serait beaucoup plus compliqué. Même mon mari qui est de la Guadeloupe, en fait, pensait que ce serait carrément impossible, déjà avec nos capacités financières, avec bon, lui, ses origines, il pensait que ce serait un frein aussi. Et finalement, en fait, à force de réfléchir et de recalculer un peu les possibilités. Et puis, en fait, on est dans une région très, très sympathique avec des gens magnifiques. Tout le village nous a accueillis aussi à bras ouverts. Donc pas de difficultés majeures, en fait.
Alors là, pareil, au niveau... comment ça s'est établi comment on évalue déjà, je vais m'adresser à Marc, comment on évalue aussi financièrement ce que ça coûte de vendre son exploitation. Comment est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont cédées, d'autres louées, comment on dispatche tout ça et comment après vous êtes retrouvé là-dessus.
Oui, on évalue la valeur de la ferme. Je pense qu'il y a beaucoup de successions qui ne se font pas parce que le propriétaire est trop gourmand, voilà. Il lui semble que c'est une fortune, la ferme. Et pour moi, la plus belle fortune d'une ferme, c'est qu'elle continue à vivre. C'est pas qu'elle s'embroussaille ou qu'elle soit bouffée par les voisins. Alors ça fait que oui, j'ai fait des concessions, j'ai vendu des animaux... 100 euros, tout venant du troupeau des jeunes, c'était 100 euros. J'ai vendu des agneaux qui étaient 50 euros. Si je dis ce prix là à des voisins, ils vont me dire mais t'es complètement fou, ça valait beaucoup plus. Mais voilà, est-ce que des fois on veut vendre beaucoup plus pour avoir plus de sous et n'avoir rien à la fin, ou est-ce qu'on est modéré et puis qu'on essaie de mettre un peu de grenadine dans son eau, là, et on arrive à un compromis. Voilà, c'est tout est là-dedans, ça se joue. Non, une ferme, c'est pas... Moi, sur ma carrière, j'ai investi 380 000 euros sur la ferme. Et j'en ai retiré 380 000 euros, voilà. Ce qui veut dire que c'est une opération neutre. J'ai vécu avec, j'avais le capital, j'ai le même capital. C'est tout.
Est-ce qu'aujourd'hui...
Le but n'est pas de s'enrichir, le but n'est pas de non, c'est, le but est de vivre correctement, c'est tout. Voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, les terres, enfin, le foncier est dissocié de l'activité ?
Le foncier, non, c'est ça fait un tout, le foncier, bâtiment et maison, c'est un tout, c'est une entité. Après, moi j'étais fermier de 20 hectares ou 21, non, j'étais propriétaire de 21 hectares et fermier de 6 ou 7 hectares. Et depuis qu'ils se sont installés, déjà ils ont l'opportunité de l'agrandir la ferme. Voilà. Est-ce qu'ils feront, est-ce qu'ils feront pas, je sais pas. Ils me demandent conseil, moi je peux pas les conseiller. je sais pas.
Alors vous, est-ce que ça vous a pas paru aussi énorme en investissement, irréalisable, peut-être au départ, comment ça a cheminé tout ça?
Oui, tout à fait. Mais ça nous paraissait effectivement énorme comme chiffre. Déjà, d'envisager 50 000 euros, c'était déjà beaucoup pour nous. On a pris l'option de louer la ferme, en fait, et de reprendre uniquement, de racheter uniquement le troupeau et le matériel avec les stocks également, pour baisser le prix de la reprise, en fait. dans un premier temps, avec l'idée de racheter petit à petit en fonction des possibilités qu'on aura avec l'évolution. Si ça fonctionne bien, on pourra envisager de racheter le bâtiment avec un morceau de terrain. Si ça fonctionne bien, après, on pourra racheter la maison, etc., etc. Et puis petit à petit, modestement, voilà. Et du coup, finalement, ben, ça a été possible. Voilà, avec des petits emprunts et puis... Et un grand cœur en face qui veut vraiment voilà, faire vivre le quartier et le village. Et,
bien sûr.
C'est primordial, en fait.
Oui, je voulais rajouter. Oui, il faut toujours que le cédant fasse miroiter. C'est pas faire miroiter, mais propose une situation stable et confortable. C'est-à-dire, là, ils m'ont demandé, est-ce qu'un jour je vendrai la maison d'en bas ? J'aurais dit oui. Parce que sûrement, voilà, il faut qu'ils aient une perspective d'avenir.
Sur l'avenir, comment va évoluer la ferme ? Est-ce qu'il y a des modifications ? Est-ce que vous allez garder l'activité telle qu'elle était ou est-ce que vous allez la modifier ?
Du coup, on va conserver l'activité telle qu'elle était. Pour l'instant, c'est ce qu'on a fait avec des tout petits ajustements par esprit un peu rebelle parfois ou avec des idées fixes. Mais en global, pour l'instant, c'est la même production, la même façon de faire puisque c'était une philosophie paysanne et qui nous convient. Marc conduisait son troupeau de façon extensive et ses champs aussi, donc pratiquement pas d'intrants, pas d'engrais, du moins, nous en tout cas, on a arrêté de mettre des engrais, on met pas de pesticides dans les prairies ni rien. On a fait un essai de métaille là pour essayer d'être plus autonome au niveau des rations, donc là c'est un essai pilote, on va dire, sur un demi-hectare, qui se présente pas mal, malgré la météo. Et sinon, du coup, la plus grosse modification, c'est les chèvres qui sont arrivées là et qui viennent nous embêter un petit peu dehors, qui sautent les filets, les clôtures, qui vont grignoter éplucher les arbres et tout, qui font rouspéter les voisins. Mais donc, c'est ça, la principale modification, c'est l'arrivée des chèvres avec l'idée d'installer la fromagerie, du coup. Mm-hmm. Voilà. Okay. Après, il y aura peut-être aussi un petit peu de vente directe de viande aussi, qui peut être quelque chose une petite évolution. Et pour l'instant, on a conservé le même débouché pour les agneaux.
D'accord.
Après, tu as dit le troupeau était mené intensivement.
Non, extensivement.
Intensivement.
Non, c'était pas intensif. Alors, je l'ai mal dit alors.
Extensivement.
Non, le troupeau est conduit intensivement. Les trois agnolages en 2 ans, c'est intensif.
C'est intensif, d'accord.
Oui, oui, oui. Voilà.
Bon. Mais,
mais le terrain n'était pas conduit intensivement, lui.
Oui, voilà, c'était quand même raisonné.
Non, parce que quand tu es une petite structure, tu es obligé de faire du chiffre quand même, tu es obligé de faire des ventes. Et pour faire des ventes, il faut faire tourner le troupeau quand même. Et je sais que moi, j'ai toujours eu un troupeau super pour ça. Et oui.
Moi, j'aimerais bien faire intervenir l'ADR justement là-dessus. Quel rôle l'ADR a joué dans cette transmission-là?
Du coup, nous, à l'ADR, l'idée, c'est d'accompagner l'installation et la transmission. Enfin, c'est vraiment d'accompagner, en fait, les paysans et les paysannes sur toute leur vie agricole. Et du coup, ce qu'on organise dans le cadre de la transmission, ça va être des temps de rencontre, Donc il y a Elia qui travaille à l'ADR spécifiquement sur la transmission, qui accompagne les personnes qui veulent transmettre à rédiger des annonces, qui fait de la mise en contact. Et une fois qu'il y a un premier contact qui se fait, qui va aussi organiser des formations de transmission, où là le but c'est vraiment d'aborder tous les aspects qu'on peut avoir dans une transmission, comment on évalue la ferme, le côté juridique, la retraite. Et sur le côté installation, on va aussi encadrer du coup les fameux CEFI, qui sont un peu comme des contrats de parrainage qui peuvent durer jusqu'à 2 ans, où l'idée c'est que les personnes peuvent tester leur projet sur la ferme, l'entente avec la personne qui va céder, et avec une rémunération soit de Pôle emploi, soit de la région, pour enlever la pression économique, on va dire, sur les années de test. Du coup, voilà, là, c'est ce qui s'est passé. Le CEFI a duré 2 ans, je me rappelle bien, et qui a permis de faire la transmission en douceur, plutôt que de devoir, pour la personne qui s'installe, tout de suite reprendre en main l'outil de travail, acquérir les compétences, etc., et se générer un salaire directement, quoi. Par contre, le CEFI, c'est vrai que c'est uniquement pour les personnes hors cadre familial. Parce qu'on va dire, voilà, vu que c'est quelque chose de relativement récent, de ne pas transmettre la ferme à ses enfants, il y a une attention qui est portée sur comment la personne va arriver sur la ferme, sur l'entente. Et il y a souvent la question du logement qui se pose. Dans le cas de cette histoire-là, Marc, il y avait une maison qui était disponible, mais c'est vrai que souvent, c'est la maison de famille. Et voilà, là, il y a quand même beaucoup d'affect. Parfois, les enfants ou les oncles et tantes n'ont pas forcément envie de se séparer de la maison de famille. Donc, ça fait partie des enjeux, en général, dans les transmissions hors cadre familial. Après, il faudrait demander à Coralie comment elle a vécu. Parfois, le fait de ne pas être issue du milieu agricole, ça vient soulever d'autres questions, mais ça, c'est pas moi qui l'ai vécu.
Alors ?
Et oui, c'est vrai que parfois, on peut manquer de confiance en soi ou se demander si on est vraiment légitime dans tout ça. Puis il n'y a que la persévérance en fait qui montrera si on peut ou pas, quoi. Mais j'ai peur de pas bien répondre à la question en fait. Le fait de pas être le fait d'être hors cadre familial, j'imagine en fait que quand on est issu d'un milieu agricole, on connaît les routines. On voit ses parents aller au foin à telle période, on connaît le déroulement de l'année correctement, en fait, sur une ferme, quelle que soit la production, après ça s'adapte. Mais donc ça, on découvre ça encore au fur et à mesure. C'est pour ça que la présence de Marc est importante pour nous, pour faire cette transition en douceur, quoi. On a repris l'année dernière, mais on n'a pas fini de reprendre vraiment les choses, quoi.
La transmission, elle s'arrête quand ? Et humainement et juridiquement, est-ce que il y a une fin à une transmission ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que ça peut durer 5 ans. Je pense qu'il y a une période très critique de 3 ans au départ ou 4 ans. Après, on peut considérer que la transmission est validée, quoi. Ça tourne. Mais les premières années, non, vous êtes en convalescence, là, vous êtes des grands.
Des bleus,
quoi. Oui, ça y est, Isaïe, cette année, il maîtrise le tracteur, là, déjà. Pour anecdote, l'année dernière, il a empilé les bottes dans la grange, il rentre 450 bottes dans la grange, et il en a mis 300, elle était déjà remplie. Et cette année, c'est mieux, déjà. Mais enfin, voilà, faut avoir des nerfs solides, je pense, pour faire ce que vous faites. Et c'est pas évident.
Quel regard vous portez sur ce couple qui est venu vers vous pour reprendre votre ferme ?
Eh bien, un regard normal. Je vois des gens, comme des gens qui ont envie de bosser, qui ont envie de faire agriculteur. Voilà, c'est pas... Je me suis jamais posé la question. Peut-être qu'ils sont trop de la ville, ils n'ont pas le même accent, ils ont une philosophie autre, ils ont des amis qui ne sont pas forcément les amis que je côtoierais. Non, il ne faut pas se poser ces questions. Il faut regarder la volonté, l'envie d'apprendre, l'envie de faire un projet, et puis voilà. C'est que ça qu'il faut voir.
Alors, même question, quel regard vous portez sur Marc ?
Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on est même en symbiose un peu sur le domaine, entre guillemets. Marc, c'est quelqu'un de bienveillant, qui est plein de bon sens, en fait, et qui pense à l'avenir et pas seulement à son bien-être immédiat. Et ça, c'est quelque chose de très précieux. Et rien que le fait aussi, par exemple, de planter des arbres comme tu fais, ou voilà, nous, quand on s'est rencontrés, le jour où on s'est rencontrés, il m'a dit, bon, ben, moi, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous me foutez pas des pesticides. Moi, j'ai mes abeilles, donc. Voilà, c'est la seule bémol qu'il m'a mis à notre rencontre, c'était la protection de ses abeilles, parce que voilà, c'est donc c'est quelqu'un qui pense pas à lui-même tout de suite, quoi. C'est il pense au reste d'abord et aux autres, voilà. Il est dans le respect des personnes aussi, et donc j'ai rien de mal à dire de Marc, en tout cas.
J'avais une question aussi, quel regard vous portez sur le fait que les activités vont changer peut-être, il va y avoir des modifications. Est-ce que ça vous inquiète ou pas?
Non, au contraire, ça me passionne. Là. Je leur demandais toujours, et ces chèvres, elles en sont où? Et le fromage, il est comment? Alors, j'étais passé maître goûteur en fromage à un moment, là. Et tout le monde me demande, et les fromages, ils en ont? J'ai dit, eh non, ça plane, là, ça a du mal à avoir les ferments. Et parce que ça se fait pas du jour au lendemain, c'est histoire de fromage, enfin c'est assez compliqué. Non, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. Ils peuvent élever des lamas s'ils ont envie, s'ils me convainquent que la laine de lama va être utilisée pour, je sais pas, pour faire de la fibre optique, ok, moi ça me gêne pas. Non, c'est pas... l'essentiel, c'est qu'il y ait une activité, qu'il y ait une présence. Que moi, je les vois passer le matin, porter les gosses à l'école. Je vois les gosses descendre sur la route. Voilà, c'est pour moi, c'est tout bonheur, ça. C'est tout. On va aller chercher plus loin. Hein.
Est-ce que ça a mis aussi, justement, une certaine vie, une vie supplémentaire sur l'activité? Est-ce que vous avez ressenti cet élan de...
Non, pas vraiment ça. Non. Non. La présence humaine, oui, mais il n'y a pas eu une extrême différence après sur... voilà, c'est... On voit passer le tracteur, c'est pas moi qui suis dessus. On voit passer les brebis, c'est plus les miennes, mais c'est tout. Il n'y a pas une... Il y a un nouveau chien, ce n'est pas le mien, mais non, il n'y a pas une différence flagrante d'activité sur le secteur, pour le moment. Parce qu'il continue une activité qui était déjà. Après, bon, il y avait les chèvres. Alors, les chèvres, on était souvent en train de courir derrière sur la route, de gueuler après la chèvre qui avait mangé mon petit greffon que j'avais greffé, là. Mais bon, je ne vous ai pas engueulé. Je vous ai dit, oh, cette saleté de chèvre. Voilà, c'est long, non ? Il n'y a pas de différence d'activité pour l'instant. Il n'y a pas un énorme projet, ils m'ont pas construit un bâtiment de 2000 mètres carrés de photovoltaïque au milieu du champ. Non, il n'y a pas... non, c'est bon.
Mais ça m'a l'air... c'est pas du bonheur tout ça, en fait.
Pour l'instant.
Oui. Bon, alors c'est vrai que le temps du CEFI, c'était aussi peut-être parfois un peu compliqué parce que... ça a mis du temps à se mettre en place niveau rémunération, en tout cas pour nous. Et ça reste quand même une rémunération restreinte. Et c'est vrai que quand le conjoint peut aller travailler un petit peu à l'extérieur, ça peut être plus confortable pour les porteurs de projets. Parce que c'est vrai que nous, ça a été un point qui nous a posé problème, même si en parallèle, on était quand même autonome avec le potager, avec un petit peu de cochon, avec le fromage, etc. Mais c'est un point un peu délicat parfois, oui. Ça peut être... problématique.
Est-ce que vous envisagez de rester que tous les deux sur la ferme ou vous envisagez peut-être de prendre une autre personne ou des woofers ou je sais pas?
Oui, tout à fait. Moi, je suis très ouverte à l'idée des woofers déjà dans un premier temps. Et puis après, je pense que s'associer, ça serait très bien, mais il faut que le courant passe. C'est comme pour la transmission avec Marc, il faut que humainement ça puisse déjà coller, mais on serait ouvert à d'autres idées et puis à comment dire, des bras en plus sur la ferme, effectivement.
Et est-ce que par rapport, enfin moi je pense aux générations aussi, une génération comme Marc qui était peut-être du matin jusqu'au soir au travail. Est-ce que c'est une cadence qui te va, qui vous va, ou est-ce que vous avez aussi envie d'avoir des activités autres que la ferme? Voilà.
Alors, c'est vrai que l'adaptation à la cadence, c'est autre chose qu'avant, parce que moi, personnellement, j'étais issue de la région parisienne, j'étais salariée, j'avais mes week-ends, j'avais même une époque où j'étais aux 35 heures. Enfin, c'était waouh, la RTT et tout, c'était le rêve, quoi. Là, maintenant, on est son propre patron, c'est les animaux, plutôt notre patron aussi, avec la météo, et c'est 7 jours sur 7, en fait. Et donc, pour l'instant, on n'envisage pas de vacances, ça fait quelques temps déjà qu'on n'en a pas eu. En famille, se reposer et tout. Pas de vacances, pas de week-end. Donc, on s'aménage des petits moments. Mais c'est vrai que c'est dur à s'adapter quand même à ce niveau-là. Ouais. Le fait d'être hors cadre, de ne pas avoir connu ça avant, effectivement, c'est... Mais ce n'est pas impossible. Et puis, on y arrive et on trouve des petits moments de repos au quotidien plutôt que d'avoir des grandes périodes ponctuellement, quoi.
Je pensais à la cadence, au rythme de travail et... Et en fait, moi, j'avais un rythme supérieur à vous deux de travail. À l'époque où je tournais, je débroussaillais tout, je coupais toutes les fougères, tout ça. Il y a un rythme de travail qui est assez phénoménal et il faut l'acquérir. Et après, il y a une organisation dans le travail aussi qui est très, très fine. On en vient à un point où on compte nos pas. On ne fera pas un pas inutile. Vous voyez, on essaye de synchroniser tout, d'optimiser le travail. Et après, les temps libres, moi je sais qu'on partait 10 jours tous les ans en vacances. On avait le service de remplacement, on avait notre ami Chirac qui nous avait fait le congé agricole et il nous remboursait sur notre feuille d'impôt le congé agricole. Ce qui fait que là, ils peuvent partir une semaine ou. Mais il faut choisir la période tout le temps, c'est pareil, on ne va pas partir au moment des agnelages, on ne va pas partir au moment des moissons. Alors il y avait le petit créneau là, du 15 août au fin août là, qui était pas mal pour moi, c'est tout. Et je sais que les dames, c'est une vie pour des femmes que ce n'est pas évident à accepter, hein, d'avoir un mari agriculteur qui est des fois à 11h du soir encore en train de travailler... qu'à 7h du matin, il est déjà parti. c'est pas évident. Enfin bon, vous êtes en couple, vous travaillez en couple, c'est pas pareil, du tout pareil. Après, à savoir si vous organisez en couple, si vous arrivez à être synchro, parce que je vous vois des fois conduire le troupeau à deux, vous n'avez pas besoin d'être à deux. Mmh. En fait, l'autre pourrait faire autre chose. J'ai l'impression qu'encore, je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, l'organisation du travail, c'était primordial. Vous n'avez pas encore acquis ça. Vous ne l'avez pas encore acquis, mais bon, ça viendra.
Ça dépend des jours, moi, j'ai envie de te dire. Ouais. Il y a certains jours où on arrive à trouver la bonne organisation et tout. Il y a certains jours où ça cafouille un peu.
À deux, le jour où vous aviez 150 votes de foin à faire, t'as pas fait des rangs, toi. Pourquoi tu l'as pas soulagé à faire les rangs? Vous montiez chacun sur un tracteur et c'était deux fois plus vite fait. Moi.
C'est pas toujours évident, ouais, du coup, de gérer. Parce que c'est vrai qu'en parallèle, du coup, il y a les enfants.
Mais les enfants, moi, je les faisais. Les enfants, à cette saison-là, ils avaient le vélo à la vitarelle. Ils descendaient à vélo. Et ils y montaient à vélo. Non, mais tout était en sorte que le gosse, il se plaisait de monter la voie à vélo. Alors, pour descendre, il se plaisait encore plus. Et nous, ça nous soulageait pas mal. On n'avait pas besoin de partir à 5 heures à chercher...
les enfants, ils arrivaient ici à la vitarelle.
À la vitarelle.
Bah voilà.
Non, mais des petits trucs. Chacun a sa fonction de travailler aussi. Moi, j'ai une façon de travailler. J'avais l'habitude de travailler seul, alors je m'organisais en fonction. Mais voilà, c'est tout.
Moi, je peux pas critiquer. Je fais toute la logistique derrière pour que Isaïe puisse faire au maximum les travaux du champ, parce qu'effectivement, il y a énormément de choses à faire, à gérer, quoi. Même au niveau administratif, nous demande d'imprimer ceci, de renvoyer, etc. Enfin, bon, il y a beaucoup, beaucoup de démarches à faire, de coups de téléphone, de... de rendez-vous à l'extérieur et tout, et plus les enfants à gérer, etc. C'est vrai que du coup, c'est pas toujours facile d'être sur le tracteur dans le champ, quoi. Donc ça va venir progressivement, mais voilà, on progresse petit à petit.
C'est vrai que dans une installation, en fait, même on va dire en création, on considère qu'il faut toujours 3 à 4 ans pour atteindre le rythme de croisière, pour connaître la ferme, monter la ferme, trouver son rythme de travail. Et du coup, c'est vrai que dans le cadre d'une transmission, même si on reprend un outil qui tourne, on pourrait s'attendre à ce que ça va plus vite, mais que ça aille plus vite. Mais il faut aussi s'approprier le lieu, les bâtiments, etc. Et donc voilà, c'est sûr que ça prend du temps. Et en même temps, au vu du nombre de paysans et de paysannes qui vont prendre leur retraite là, dans les 5 à 10 ans qui arrivent, en fait, c'est vraiment vital d'accompagner au mieux les transmissions. Si on ne veut pas se retrouver avec plein de fermes qui partent soit à l'embroussaillement ou des bâtiments qui sont vides. Donc c'est vraiment important d'accompagner ces transmissions et de prendre le temps, que ce soit à cadre familial ou hors cadre familial, pour accompagner ces passages de relais, de compétences, ces évolutions sur les fermes.
Déjà, vous commencez votre carrière à 40 ans, alors vous n'avez que 20 ans à faire.
Ah bah oui. C'est comme on a déjà deux autres avant.